BFM Business, l'info éco.
Il est quasiment 8h30 sur BFM Business et sur MC Life. Le journal, c'est avec Léo Dumas.
Et à la une, ces progrès déjà entre Américains et Iraniens après une très longue journée de négociations en Suisse. Hier, les discussions se sont achevées au beau milieu de la nuit. Il y a quelques heures à peine, avec de l'encouragement de chaque côté, mais aussi après un début de journée sous haute tension. Résumé avec Elisabeth Guedel depuis les États-Unis pour BFM Business.
Le ton était à l'optimisme hier en Suisse côté américain. L'ouverture des négociations, J.D. Vance disait espérer qu'Américains et Iraniens allaient tourner la page dans leurs relations. Mais très vite, les tensions sont apparues et au bout d'une heure de discussion, la délégation iranienne a quitté la table, irritée par les menaces de Donald Trump de frapper à nouveau l'Iran si Téhéran cherchait à refermer le détroit d'Ormuz ou encore n'obtenait pas du Hezbollah l'application du cessez-le-feu au sud Liban. Ambiance donc tendue, mais le dialogue n'est pas rompu, les discussions se poursuivent, assurent les Américains. Les médiateurs pakistanais et qataris parlent de progrès encourageants et d'atmosphère constructive. Côté iranien, on assure même que les sanctions sur le pétrole iranien ont été levées et que certains avoirs iraniens gelés à l'étranger ont été débloqués. En tout cas, le vice-président américain a prévu de rester encore un jour ou deux en Suisse avant de laisser la place à des négociateurs pour des aspects plus techniques de ce qui doit aboutir à un accord qui mettra fin à 4 mois de conflit au Moyen-Orient.
Merci Elisabeth Guedel depuis les États-Unis où une dizaine d'entreprises viennent d'être sanctionnées ce matin par Pékin, la Chine, qui présente ces mesures comme une riposte à la liste noire d'entreprises chinoises publiée par le Pentagone il y a 2 semaines. Elle annonce aussi l'exclusion de 46 sociétés américaines de ces marchés publics, dont Lockheed Martin et la branche défense de Boeing. Au Royaume-Uni, des missions imminentes de Keir Starmer. Selon les principaux médias du pays, le Premier ministre se retrouve de plus en plus isolé au sein des travaillistes. Depuis l'élection de son rival comme député, le maire de Manchester, Andy Burnham, et d'après le Guardian, Keir Starmer resterait quand même en fonction jusqu'à la fin de l'été, avant la désignation d'un nouveau dirigeant au cours du congrès du parti fin septembre. Et puis l'actualité des entreprises avec une acquisition pour Danone. Aujourd'hui, le groupe français qui se renforce en Asie-Pacifique en rachetant l'Australien Made Group et son portefeuille axé sur la santé. Il annonce aussi une acquisition des 49% restants de sa co-entreprise en Australie.
Il est 8h32 sur BFM Business et sur AMC Live. L'actualité vue par la presse étrangère avec Mathilde Chaminade et on commence avec le Financial Times.
Oui, à la une du Financial Times, ce sont les négociations sur le Moyen-Orient. J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, et son gendre, Jared Kushner, viennent donc de conclure des négociations avec leurs homologues iraniens. Et pour le Financial Times, le bilan est mauvais. Aucune solution n'a été trouvée. L'Iran continue de menacer le détroit d'Ormuz tant que des frappes israéliennes se poursuivront au Liban. On en est au même stade qu'avant les négociations. Et on apprend aussi que la délégation iranienne a refusé de poser sur des photos en compagnie des Américains. Pourtant, Bloomberg est plus optimiste sur le bilan de ce premier tour de négociations. Ils estiment que des progrès ont été faits, que les deux parties ont notamment réussi à se mettre d'accord sur des protocoles de communication pour éviter des incidents ou même la reprise de frappe et surtout qu'ils ont un accord de principe pour maintenir le détroit d'Ormuz ouvert.
Ce matin, Mathilde, on a aussi les résultats de l'élection présidentielle en Colombie.
Oui, et comme c'était attendu, le candidat Abelardo de la Esprilla est élu président avec plus de 2400 voix d'avance sur, selon le dernier décompte, Del Tiempo, un quotidien colombien. Une victoire serrée qui s'est jouée à 0,95 points de pourcentage d'écart en faveur du candidat d'extrême droite soutenu par Donald Trump. Mais dans le même temps, on apprend dans El Espectador, un autre quotidien colombien, que Abelardo a certes gagné l'élection, mais désormais, et après une campagne qui a beaucoup polarisé le peuple colombien, il va devoir rassembler et faire des compromis avec l'establishment politique du pays, qui lui reste majoritairement de gauche, sans quoi la majorité de son programme risque d'être complètement bloquée.
Merci beaucoup Mathilde Chaminade de la Bourse. Étienne Brac, couverture dans 25 minutes. Qu'est-ce qu'on attend ?
Des grands indices européens qui sont stables pour l'instant en pré-ouverture. Du côté des futurs américains, c'est une très légère baisse. Les États-Unis étaient fermés vendredi. Il faudra encore et bien sûr toujours surveiller la situation au Royaume-Uni avec un 10 ans britannique qui a pris plus de 8 points avec la montée du nouveau candidat du parti travailliste. Dans le même temps, des informations de presse sont loyées à l'instant qui évoquent que Keir Starmer pourrait démissionner. Donc forcément, tout cela, ça rappelle des mauvais souvenirs. Et puis surtout, vous avez des marchés qui s'inquiètent encore et toujours de la trajectoire budgétaire du Royaume-Uni. Et par rapport à cela, on a un 10 ans britannique qui frôle encore et toujours la fameuse barre des 5%. Des inquiétudes également du côté du Japon. On en reparlera dans un instant avec un yen face au dollar qui est quand même sur des plus bas de 40 ans, des plus bas de 1986. Encore ce matin, la première ministre japonaise dit « si besoin, on agira sur notre devise ». Mais ça ne fait pas effet. Idem la semaine dernière quand la Banque centrale du Japon a remonté ses taux. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui en ce qui concerne la devise japonaise et les obligations japonaises. Alors ce qui est amusant, c'est que pendant ce temps, le Nikkei, donc l'indice boursier du Japon, continue d'enchaîner des records. Encore cette nuit, vous avez un nouveau record avec la barre des 72 000 points qui a été franchi encore et toujours grâce à l'intelligence artificielle. C'est vrai que l'IA ne regarde pas du tout ce qui se passe sur les sujets monétaires ou les sujets obligataires. Vous avez encore et toujours des flux qui arrivent sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle. L'autre preuve cette nuit, c'est la bourse de Séoul qui a franchi un nouveau record historique porté par deux valeurs, bien sûr, que sont SK Hynix et Samsung. SK Hynix qui est même passé devant Samsung en termes de capitalisation boursière.
On va voir ça avec nos invités dans un instant pour le Club de la Bourse. C'est Wilfried Galland et Olivier Guénaud qui vont nous rejoindre. Vous ne bougez pas, à tout de suite.
Good Morning Market, le Club de la Bourse.
Le Club de la Bourse à 8h38 sur BFM Business et sur AMC Live. C'est avec Wilfried Galland. Bonjour, directeur général adjoint de Montpensier Arbevel. Et avec vous, Olivier Guénaud. Bonjour, vous êtes le directeur des investissements de HSBC Asset Management. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent ce matin? On a pas mal de Japon, pas mal de Royaume-Uni. On commence peut-être avec le Royaume-Uni et Keir Starmer, Wilfried, qui est sur la sellette. Probablement une démission dans la journée, remplacée par Andy Burnham. Alors évidemment, quand on parle de la politique britannique, tout de suite, on va regarder le marché obligataire.
Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, quand on a une nouvelle britannique, on regarde la livre, le marché obligataire et la réaction de la Banque centrale britannique. Ce qu'on voit véritablement, c'est que le sujet des finances publiques britanniques est devenu depuis quelques années un sujet majeur de marché. Ce qui était moins devenu parce qu'il y avait une espèce de stabilité dans la classe politique britannique sur la façon de gérer les finances publiques. Là, on voit qu'on a beaucoup d'instabilité. Keir Starmer va probablement être remplacé par Andy Burnham, qui a une vision, quand on regarde ce qu'il a fait à Manchester, qui a une vision quand même qui est beaucoup plus agressive en termes d'endettement.
De gauche, voilà, la branche gauche.
Voilà, exactement, c'est la branche gauche-gauche. Donc on se décale sur l'échiquier politique. Évidemment, ça inquiète les marchés en disant, mais quel type d'équilibre allez-vous trouver en termes budgétaires, en termes de croissance? Il y a plusieurs problèmes aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Il y a effectivement le problème de l'équilibre budgétaire et le problème globalement de la croissance qui s'effrite. On a une économie qui va pas bien en Grande-Bretagne. La Banque centrale d'Angleterre fait le maximum pour justement stabiliser tout ça. C'est un peu un cas d'école. Ils sont vraiment extrêmement habiles pour justement gérer les différents équilibres. Mais là, les marchés effectivement s'inquiètent et on voit aujourd'hui, ce matin, des impacts qui sont déjà très forts sur le taux britannique.
Etienne,
on doit pas être loin de 5 là.
Oui, toujours proche des 5%. Ouais. On est à 4,90 quasiment.
Ouais. Quand même, donc c'est bien monté déjà depuis.
Oui, sachant que ça avait déjà monté vendredi par anticipation.
On a quasiment 10 points de base de plus ce matin. Quasiment.
Quand même, Olivier Guénaud, comment vous regardez le marché obligataire britannique?
Alors, il faut voir en plus ce qui a été dit que l'économie britannique, c'est comme ça que les intervenants de marché le regardent, a eu une inflation de sous-jacente qui a toujours été relativement importante sur le dernier cycle, avant même les événements du détroit d'Ormuz. Et donc, vous avez eu régulièrement des épisodes où les obligations britanniques étaient sous pression parce que l'inflation montrait des chiffres de 3,5% par an. Des augmentations de salaires qui étaient importantes.
À cause de quoi? À cause de l'énergie qui est plus chère?
C'est vraisemblablement dû. Il y a eu plusieurs effets. Il y a eu un effet de rattrapage des salaires du secteur public qui continue, qui fait que les salaires ont pas mal augmenté. Et puis vous avez eu le fait que c'est une économie qui est quand même relativement étroite entre guillemets, vous avez eu des choses qui ont fait que cette inflation, effectivement, est restée...
Mais on peut dire qu'ils se sont parmis du Brexit, c'est-à-dire que, globalement, 10 ans plus tard...
Je pense que le Brexit peut avoir un impact sur le sujet, mais il pourrait très bien mieux se passer que ça actuellement. Encore une fois, je pense qu'il faut voir un peu plus loin. S'il y a une détente sur le détroit d'Ormuz, vous avez la possibilité effectivement d'avoir des vents qui sont un peu plus favorables, je dirais, pour les rendements obligataires britanniques. Et ça peut permettre aussi à certains investisseurs maintenant de rentrer sur le portage.
Oui, ce que les Britanniques ont mal mesuré au moment du Brexit, c'est que ils étaient en déficit structurel de leur balance des paiements et donc ils avaient besoin de financement permanent. Ce que certains intervenants de marché un peu taquins appellent,
c'est parce qu'a vendu Nigel Farage, quoi.
Ouais, voilà.
La balance des paiements.
En disant globalement, vous êtes considéré comme une économie émergente, en fait. Vous avez les modes de financement d'une économie émergente sur les marchés financiers. Et donc quand vous avez la protection de l'Union européenne, même si vous n'avez pas la protection de l'euro. Autour de vous, il y a un côté stabilisateur. Dès que vous l'enlevez, effectivement, vous êtes beaucoup plus exposé au vent de marché tel que vous l'avez subi depuis le Brexit. Et donc, il faut que vous ayez une politique, à la fois une politique monétaire sur l'inflation, mais surtout une politique de croissance, une politique économique, une politique budgétaire, extrêmement sérieuse pour surtout ne pas inquiéter, pour ne pas avoir ce qu'on appelle, maintenant on appelle quand même sur les marchés l'effet Liz-Truss. On parle en France de dire, il ne faut pas qu'on ait l'effet Liz-Truss. C'est-à-dire d'un seul coup, on présente un budget qui n'est absolument pas crédible, et d'un seul coup, tous les marchés dérivent, et on est obligé de faire machine arrière. Là aujourd'hui, l'Angleterre est vraiment dans une situation compliquée.
Étienne, on rappelle ce que c'est que l'effet Liz-Truss ?
Ah, l'effet Liz-Truss, c'est quand...
Avec la salade.
À l'époque, elle avait présenté sa trajectoire... son budget, et puis que d'un seul coup, il y avait une panique généralisée, que ce soit sur la livre, que ce soit sur les rendements des obligations britanniques, et à la fin, elle n'avait pas le choix.
Sur les fonds de pension, ouais,
et ça avait dépassé les 5. Hein,
ouais, parce qu'il y avait des appels de marge sur les fonds de pension britanniques, et d'un seul coup, hop.
Et elle a démissionné. Ça a été radical.
Exactement.
Autre actualité sur les marchés financiers ce matin, ce Nikkei qui a franchi la barre des 72 000 points et ce Yen sous ses niveaux depuis 86. On est sur des records par rapport au dollar, Étienne.
Oui, le Yen n'arrête pas de baisser depuis des semaines, des mois maintenant. Alors au mois d'avril, fin avril, début mai, vous avez le gouvernement qui a injecté de l'argent massivement afin de reprendre le Yen face au dollar. Bon, ça fonctionnait, mais que quelques jours seulement. La semaine dernière, la Banque centrale du Japon qui a augmenté ses taux, taux directeur à 1%, c'est une première depuis 1995, pour là essayer de reprendre en main la devise japonaise. Et rien n'y fait. C'est-à-dire qu'encore ce matin, vous avez un yen qui continue de glisser. D'autant plus que, hasard de calendrier, ça intervient pile au moment où vous avez un nouveau patron à la Banque centrale américaine, Kevin Warsh, qui a l'air déterminé à combattre l'inflation. Et donc, le marché se dit, bah oui, forcément, si vous avez une banque centrale qui relève ses taux dès le mois de septembre, bah, il faut acheter du dollar. Et donc, vous avez un dollar qui se renforce, que ce soit face au yen, mais face aussi également à la livre ou encore face à l'euro. C'est totalement généralisé, cette reprise du dollar.
Un mot sur le Japon, Wilfried ?
Oui, alors déjà, c'est un domaine sur lequel tous les analystes, et je me mets évidemment dans le lot, se sont tellement trompés dans les dernières années qu'en fait, on y va vraiment avec d'infinies précautions. Ce qui se passe avec le Japon, et on en parlait avec Étienne avant de rentrer sur le plateau, c'est que clairement, la parole ne suffit plus. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'engagement des autorités, que ce soit des autorités budgétaires japonaises ou des autorités monétaires japonaises, en disant vous allez voir ce que vous allez voir, nous allons intervenir et nous n'allons pas supporter que le yen, c'était déjà depuis 150 yens pour un dollar, donc maintenant on est au-delà de 160, nous n'allons pas supporter cette dégringolade. En fait, on se rend compte que ça ne suffit pas et que les interventions sur le marché d'échange ne sont jamais suffisantes, y compris quand on a des moyens importants comme la Banque centrale japonaise. Il faut donner confiance dans la trajectoire à long terme de l'économie. La trajectoire d'une devise, c'est d'abord et avant tout la confiance dans l'économie et dans sa capacité de financement. Ce n'est pas tellement le différentiel de taux d'intérêt. Si effectivement vous avez un différentiel de taux d'intérêt, ça aide. Malheureusement pour eux, ils tombent dans un épisode où les taux d'intérêt mondiaux, les taux d'intérêt du dollar remontent, donc ça ne les aide pas. Mais autrement, on n'a pas confiance dans la trajectoire de l'économie japonaise.
Mais comment on peut avoir, vous qui êtes un spécialiste des marchés, un Nikkei qui booste comme ça et puis un yen qui s'effondre,
s'il n'y a pas une exportation.
C'est justement les grandes périodes du marché japonais depuis l'après éclatement de la bulle du marché japonais après 90. C'est justement lié au fait que quand vous avez un yen qui baisse, ben les exportations sont compétitives. Plus exactement, les entreprises japonaises qui ont des produits de qualité gardent les prix en dollars au même niveau et explosent leur marge grâce à la faiblesse du yen. Donc ça va souvent de pair. Moi, je rejoins ce que vous disiez, Étienne. Je pense que le sujet principal, c'est la force du dollar. Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, plutôt à la Fed.
Avec cette arrivée de Kevin Warsh.
Absolument.
Et donc ces taux qui vont bouger, pas bouger, vous êtes dans quel état d'esprit, vous ?
Ah ben, ce que dit le président de la Fed, c'est que déjà, lui, il ne donne pas de guidance, comme on dit, il ne donne pas de perspective. C'est le seul, d'ailleurs, dans les 18 qui ne va pas le donner. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que les intervenants de marché, suite à l'accord qu'il y avait eu sur l'ouverture potentielle du détroit d'Ormuz, s'attendait à ce que la Fed ait un discours qui soit beaucoup plus mesuré, et qu'en fait, il a délivré à la fois un discours qui était assez haussier, et en plus, il a vraiment remis le point sur l'inflation à moyen et long terme, et donc les marchés ont été pris un peu de court, et c'est vraiment la hausse du dollar et la hausse des taux à court terme dans les 3-4 mois qu'on a vu qui ont changé un peu le marché.
Étienne, il a un peu déçu ceux qui pensaient qu'il était très colombe, Kevin Warsh.
Ah bah, d'autant plus que vous aviez quand même Donald Trump qui, depuis des mois, veut des baisses de taux. Là, en tout cas, à court terme, Kevin Warsh, il a dit non, pas question de baisser les taux. Les anticipations, elles se sont retournées d'une façon spectaculaire. Hein. C'est-à-dire que désormais, la probabilité d'une hausse de taux, c'est un peu en juillet, mais surtout dès le mois de septembre. Alors qu'avant la réunion, c'était probablement fin d'année, voire début d'année 2027. Donc il y a eu un gros retournement à la suite de cette réunion. Le dollar qui s'est renforcé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le pétrole est sous les 80 dollars hein, depuis quelques jours maintenant, et ça ne change pas la donne. C'est-à-dire que là, le pétrole, maintenant, il est sous les 80 dollars. Encore ce week-end, il a un peu bougé, mais pas tant que ça, hein, par rapport à la fermeture du détroit.
Ouais. Mais sur les taux, ça ne change pas.
Et sur les taux, ça ne change pas. Et sur le marché actions, vous voyez, ce matin, on est stable en préouverture. Enfin, vous avez un marché qui, aujourd'hui, c'est un petit peu déconnecté de cette situation au Moyen-Orient, en disant, mais de toute façon, il y aura une paix. Quoi qu'il arrive, il y aura une paix. Et donc, que ce soit sur les commodities, les actions, etc., ça bouge assez peu.
Wilfried, il va être Kevin Too Late, lui aussi.
Non, en fait, pour l'instant, c'est Kevin Gain Time. C'est-à-dire, c'est je gagne du temps en donnant une méthodologie. Hein, la méthodologie de ces fameux 5 groupes de travail. Et surtout en ne prenant, comme Olivier l'a dit, aucun engagement. Et donc, on s'attendait effectivement à une trajectoire plutôt baissière des taux. Globalement, les marchés sur les 3 prochains mois disent peut-être après, il va y avoir des changements. Et donc, ils se gagnent du temps. Et ça, c'est effectivement la grosse nouveauté. C'est-à-dire que on va avoir des changements qui sont considérables à la Fed. Et donc, les marchés, en fait, se déconnectent des discours aujourd'hui de la Fed en disant on va en savoir plus probablement en septembre ou en octobre. Et là, effectivement, on prendra des positions. Je pense que les positions qui sont aujourd'hui des positions de marché sont des positions qui sont d'abord très peu marqués, en fait, hein. Quand on regarde les probabilités, ils sont faibles. Ils sont certes plutôt à la hausse, mais ils sont faibles. Et donc, les marchés ne s'engagent pas sur la trajectoire de taux américaine. Ils s'engagent sur autre chose, c'est-à-dire que l'économie américaine va bien. Oui. Donc, le dollar va bien. Et donc, le pétrole va continuer, effectivement, à ne pas pouvoir rester entre 75 et 80 dollars le baril.
Olivier, il n'y a que l'intelligence artificielle qui drive, il n'y a que ça qui compte.
Et à la fin, il n'y a que l'IA.
Et à la fin, c'est ça, il n'y a que les résultats de Micron, c'est aussi important que l'IA, que les chiffres de l'inflation qui vont être publiés cette semaine.
Ah ben, c'est clair que là, ce qu'on a vu cette semaine encore, après les semaines passées, c'est que cette tendance sur l'IA est persistante. C'est un phénomène de fond, c'est une tendance qui risque de ne pas s'arrêter en termes d'utilisation, de développement de l'IA. Alors pas seulement pour les fameux hyperscalers, mais également pour toute l'industrie, aval, amont. Donc oui, c'est un phénomène important. Mais encore une fois, je pense qu'il faut bien voir que quand vous avez des tensions sur les taux, sur le détroit d'Ormuz, évidemment, ça met la focalisation positive sur l'intelligence artificielle, mais quand vous avez eu des périodes avec un peu de détente ou d'espoir de détente, vous avez eu ce marché qui s'est un peu qui a un peu respiré, et d'autres secteurs ont monté. Donc moi, je suis tout à fait de votre avis. Les choses vont encore bouger. Il y a une volatilité importante sur les attentes à la fois.
C'est-à-dire quand vous devez faire de l'allocation d'actifs, vous faites...
On diversifie complètement. Et ce qu'on va faire, c'est plutôt essayer de prendre au sein de chaque pôle les positions qui nous permettent d'accéder à ce thème à moindre coût.
Par exemple,
sur l'IA, plutôt que de tout focaliser sur les hyperscalers américains, ouais, ou qui sont très chers, aller plutôt effectivement sur les marchés émergents asiatiques. Vous avez une technologie qui est peut-être pas tout à fait la même, mais qui en tout cas est beaucoup moins chère.
Mais vous n'avez pas beaucoup d'acteurs non plus, quoi. Et des acteurs qui sont quand même, qui ont tellement monté ces derniers temps, quand on voit la bourse de Séoul.
Vous avez effectivement quand même des secteurs qui sont importants dans le sens où ça fait bouger quand même l'ensemble de la côte taïwanaise, coréenne, etc. Mais même au-delà, même en Chine, vous avez, je vous rappelle que vous avez des hyperscalers en Chine aussi, donc qui n'ont pas trop bougé, entre guillemets. Donc vous pouvez accéder à ces thèmes, soit d'ailleurs en amont et en aval également.
Sans acheter Nvidia, quoi.
Acheter forcément les sept grandes actions américaines. Et également,
autre chose qu'Nvidia dans la vie.
Mais oui.
Exactement. Et également sur le reste de la côte, parce que c'est ça qui est important. Sur le reste de la côte, au moment où il va y avoir de la volatilité, essayer de prendre également des positions sur les secteurs qui ont été délaissés. Peut-être injustement délaissés.
Il nous reste une minute. Qu'est-ce qu'on attend à l'ouverture, Étienne ?
Stable en préouverture en Europe. Hein. C'est vrai que les marchés sont très résilients par rapport à ce qu'on a pu voir ce week-end. Pétrole clair. Toujours sous les 80 dollars. L'Europe, stable. Quand vous regardez les futurs américains, très légère baisse. Micron, donc mercredi soir, hein, c'est quand même une boîte qui vaut 1300 milliards, hein, qui a fait x9 en l'espace d'un an. Hein, les résultats devraient être époustouflants. Mais bien sûr, le marché attend un petit peu de perspective. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, les marges vont tenir après le parcours spectaculaire de ces derniers mois? Et puis, l'inflation américaine, ça sera donc jeudi à 14h30.
Deux événements à suivre cette semaine. Merci beaucoup, Wilfried, d'être venu ce matin. Merci beaucoup, Olivier Guénot, de nous avoir rejoints dans la matinale de l'économie. Dans un instant, évidemment, l'ouverture des marchés financiers avec Étienne Brack. On se retrouve demain, 6h, 9h, pour une nouvelle matinale. Bonne journée.
Good Morning Market sur BFM Business.
8h58, dans un instant, l'information
BFM
économique.
Business présente Good Morning Market. Étienne Brack.
C'est parti pour Good Morning Market. Dans un instant, il sera à 9h. Toute l'information économique du jour, ça sera avec Léo Dumas. L'ouverture des marchés européens, nous étions stables en préouverture. Le baril de pétrole est toujours sous les 80 dollars. 79 dollars ce matin pour le Brent, 76 dollars pour le WTI. Nous parlerons d'introduction en bourse avec Raphaël Moreau qui sera avec nous en début d'émission d'Amiral Gestion pour revenir sur deux introductions en bourse qui se sont déroulées ces dernières semaines. Il s'agit de deux sociétés allemandes, Small et Mid Cap. Toutes ces valeurs, vous saurez tout dans un instant, les convictions de Amiral. Jacques Lemoisson de Gay Capital Management sera également dans Good Morning Market aux alentours de 9h15. Avec Jacques, nous reviendrons bien sûr sur les marchés qui croient encore et toujours à l'intelligence artificielle. Hein, c'est assez amusant de voir une nouvelle fois que ce matin, vous avez eu un nouveau record du côté de la bourse de Séoul, de la bourse de Tokyo, tiré encore et toujours par les grands acteurs des semi-conducteurs, quand du côté des États-Unis, la semaine dernière, c'était encore la fête sur l'indice SOX, l'indice des semi-conducteurs, qui gagne quasiment 90% depuis le début de l'année, puis en dernière partie de l'émission. Alexandre Baradez restera avec nous une semaine qui sera à nouveau très chargée sur les marchés, que ce soit avec l'inflation américaine jeudi, mais aussi avec l'intelligence artificielle, là aussi Micron qui publiera ses résultats mercredi soir après la clôture de Wall Street. Voilà le programme de Good Morning Market jusqu'à 9h30. Mais en attendant, donc, toute l'information économique du jour, c'est avec Léo Dumas.
Good Morning Market, le journal.
Et donc on se dirige vers des records de chaleur jour après jour cette semaine. Pas de baisse de température avant vendredi, selon Météo France, qui a placé 49 départements, c'est-à-dire 35 millions de Français en vigilance rouge, canicule ce lundi. Alors la question, c'est comment s'adapter au réchauffement climatique dans les entreprises? Écoutez ce que nous a dit Antoine Denoy, le patron d'AXA Climate sur BFM Business ce matin.
Il y a deux façons de s'adapter. Hein. Il y a une adaptation douce et une adaptation dure.
Ouais.
L'adaptation douce, c'est les congés climatiques, la productivité, l'aménagement des horaires. Ça, ça se gère, entre guillemets. Ça coûte un prix, mais ça se gère. L'adaptation dure, c'est plus coton. Ça veut dire qu'il faut en passer par des allocations du capital différentes, et notamment pour les entreprises privées, choisir de recombiner différemment leur portefeuille physique. Allez, assez concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire déplacer des usines. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où...
Des usines.
Ah bah bien sûr. Nous, ce qu'on fait, notre geste, c'est de venir avec des cartes d'endroits précis sur le territoire, notamment de l'usine en l'occurrence, et de montrer les indicateurs de ce qui va arriver en 2050 et 2100.
9h01 et la première séance de négociation a été fructueuse entre les États-Unis et l'Iran. Elle s'est achevée au milieu de la nuit. Et les deux parties se sont entendues sur une feuille de route pour trouver un accord définitif en 60 jours. Ils ont aussi déjà convenu d'établir une ligne de communication afin d'assurer le passage sûr des navires dans le détroit d'Ormuz. Le chef de la diplomatie de l'Iran fait également état de progrès majeurs pour cesser la guerre au Liban. Et il assure enfin que le blocus américain sur le pétrole iranien a été levé et que certains avoirs ont été débloqués. Au Royaume-Uni, la démission de Keir Starmer est imminente. Selon la presse du pays, le Premier ministre se retrouve de plus en plus isolé au sein des travaillistes depuis l'élection comme député. De son rival, le maire de Manchester, Andy Burnham, et d'après le Guardian, Keir Starmer restera en fonction tout de même jusqu'à la fin de cet été avant la désignation d'un nouveau dirigeant au cours du congrès du parti à la fin du mois de septembre. Et puis, dans l'actualité des entreprises, ça s'active sur le dossier EasyJet qui a rejeté 3 propositions de rachat en 10 jours. Les 3 qui venaient du fonds Castlelake qui communique ce matin et qui affirme avoir proposé 5 milliards de livres il y a encore 2 jours. Le fonds dit rendre publique cette dernière offre rejetée par EasyJet pour permettre aux actionnaires d'en examiner les mérites.
Merci beaucoup Léo. Dans un instant, tous les détails sur la séance en cours, juste avant le programme des experts que vous retrouvez à partir de 9h30 avec Raphaël Legendre. Quel est le programme en ce lundi, Raphaël?
Bonjour Étienne. Aujourd'hui, on va parler de la canicule, bien sûr. École fermée, train ralenti, entreprise désorganisée. La canicule a désormais un coût économique. Combien nous coûte notre impréparation? Ce sera le premier thème des débats avec mes experts aujourd'hui. Et puis, on reviendra aussi sur cette proposition du MEDEF. Le MEDEF qui propose de transférer 30 milliards d'euros de cotisations vers la TVA, la CSG et puis aussi des économies. Alors, réforme de compétitivité ou simple déplacement de la facture. On va passer les propositions du MEDEF sur le grill des experts. Et puis, pour terminer, on parlera souveraineté numérique à Vivatex. C'était la semaine dernière le maître mot de partout. L'Europe peut-elle reprendre le contrôle numérique? Ce sera le dernier thème des débats. Rendez-vous à 9h30. À tout à l'heure.
En attendant, il est 9h03 et donc le CAC 40 est quasi stable, comme attendu. Plus 0,1%, 8427 points. Carrefour, ArcelorMittal et ST Microélectronique sont les 3 plus fortes hausses à l'ouverture. Carrefour qui fait notamment l'objet d'un avis favorable d'un broker et ça booste la valeur ce matin. C'est la plus forte hausse de l'indice parisien à 15,87€. À l'inverse, Eiffage Legrand et Sanofi ferment la marche. Pas vraiment de tendance en ce lundi matin, que ce soit à Paris, mais également sur les autres indices en Europe. Le pétrole est donc toujours sous les 80$, 75$ pour le WTI, pour le baril de Brent. Les marchés continuent de croire encore et toujours à une issue favorable des conflits qui se passent en ce moment du côté du Moyen-Orient. Avec Léo en parlait il y a un instant, hein, visiblement des négociations qui se sont bien passées cette nuit entre l'Iran et les États-Unis. Du côté du 10 ans français, 3,6%, 2,97, hein, toujours le 10 ans allemand, toujours à la porte des 3%, quand sur le front des devises, vous avez un dollar américain qui continue de se renforcer, que ce soit face à la livre sterling, avec donc nouvelle incertitude politique, mais également face au yen, qui a touché cette nuit un plus bas historique face au dollar, plus bas de 1986. Très courte pause, on se retrouve dans un instant. Nous parlerons des dernières introductions en bourse qui se sont réalisées en Europe, et puis ensuite, Jacques Lemoisson viendra nous parler du momentum très fort en ce moment sur les actions américaines. Est-ce qu'il faut continuer à accompagner ce mouvement et ces records du côté des actions américaines? Jacques Lemoisson nous donnera son point de vue et puis surtout il nous dira, regardez ce qui se passe du côté de la Chine. Et d'ailleurs la séance ce matin a été très instructive avec des indices asiatiques qui se sont bien comportés, que ce soit du côté de Tokyo, du côté de Séoul, mais également du côté de la Chine continentale. Nous parlons de tout ça dans la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Brack.
C'est parti pour Good Morning Market. Et donc le CAC 40 qui est parfaitement stable, a noté ce matin Pierre et Vacances à l'instant, qui dans un communiqué annonce être visé par une offre de rachat par un fonds émirati. Une offre ferme avec un groupe qui propose 1,90€ par action ordinaire, 1,79€ avec un dividende exceptionnel de 11 centimes. Le titre Pierre et Vacances est en hausse d'un peu plus de 3% à 1,83€. Carrefour est donc ce matin la plus forte hausse, un titre qui gagne 1,8% avec donc Morgan Stanley qui est passé à surpondérer sur la valeur. À l'inverse, FH, Saint-Gobain ou encore L'Oréal ferme la marche. À 9h08, avec les équipes de Amiral Gestion, on va se pencher sur les dernières introductions en bourse en Europe. Alors malheureusement, Raphaël Moreau, bonjour. Il y en a assez peu à Paris, hein, donc on va devoir sortir un petit peu de nos frontières pour regarder un petit peu ce qui se passe du côté du Mittelstand, hein, des sociétés allemandes, les small et mid-cap, avec deux sociétés hein, qui sont rentrées en bourse au mois de mars. Il s'agit d'ailleurs, allez, on va commencer par une société qui est présente dans le secteur de la défense. Ça tombe bien, hein, c'est le secteur qui en ce moment est très scruté par les investisseurs. Il s'agit de Gabler, qui travaille notamment dans tout ce qui est drone sous-marin et aujourd'hui tout ce qui est détection.
Alors, le drone, effectivement, est une petite partie de leur activité aujourd'hui et qui va croître. Le gros de leur activité aujourd'hui, ça reste les mâts rétractables des sous-marins. Donc, un sous-marin a besoin d'aller, évidemment, aller voir ce qui se passe au-dessus de l'eau, mais d'aller aussi prendre de l'air, envoyer aussi des systèmes de communication. Et donc, c'est une société qui a pignon sur rue, on va dire, depuis des décennies et qui s'occupe, évidemment, qui est le co-leader mondial, en fait, sur ces mâts rétractables de sous-marins.
Alors, c'est un titre qui est rentré en bourse au mois de mars, hein, mi-mars, donc ça fait 3 mois aujourd'hui que c'est coté. C'est 250 millions d'euros de capitalisation boursière. Bon, le titre est à moins 10 déjà, au bout de 3 mois. Qu'est-ce qui effraie un petit peu les investisseurs là, depuis plusieurs jours maintenant?
Rien n'effraie les investisseurs. Je pense que la société est encore très peu connue. Oui. La communication est encore extrêmement maîtrisée et rigoureuse, on va dire. Non, tout va bien. Donc, on a participé à cette IPO donc, lors de l'introduction en bourse. Elle est basée donc à Lübeck, hein. Donc tout va bien. C'est une activité qui est essentiellement concentrée sur la maintenance, parce que les sous-marins, on n'en produit pas comme des petits pains, hein. Le monde occidental en produit environ 2 par an. Par contre, il y a toute la flotte de sous-marins encore en opération qui est à maintenir. Et grosso modo, quand un système Gabler a été installé sur un sous-marin il y a 40 ans, c'est Gabler aussi qui va faire cette maintenance. Alors la maintenance est plutôt en train de s'accélérer, puisque la menace ressentie par les marines est évidemment plus forte aujourd'hui. Donc ça, c'est un marché qui est en expansion. Et puis par ailleurs, il y a une opportunité de prise de part de marché pour Gabler qui semble assez claire. C'est-à-dire que les Américains, aujourd'hui, ils utilisent surtout une société italienne qui s'appelle Calzoni. Et en fait, tout se passe en Italie. Les Américains, ils ont envie de construire leur supply chain aux États-Unis. Et donc pour ça, ils ont fait appel, certes, à leur fournisseur historique, mais aussi à Gabler. Donc là, il peut y avoir des opportunités dans les années à venir significatives, sachant que évidemment, les États-Unis ont la plus grosse flotte de sous-marins au monde. Donc ça, c'est une première partie de l'activité. Et puis par ailleurs, l'Italien Calzoni, donc certes de nationalité italienne, mais détenu par un groupe américain et donc sujet aux règles d'extraterritorialité américaine. Et donc toutes les autres marines du monde qui utilisent aujourd'hui Calzoni sont un petit peu embêtées d'avoir cet acteur en tant que fournisseur critique. Hein, voilà. Et donc ça fait aussi des opportunités pour Gabler. Voilà. Donc c'est une activité extrêmement rentable. Hein. On parle de taux de marge opérationnelle de 20-25%, voire plus. Donc c'est très très rentable. Et puis par ailleurs, effectivement, comme vous le disiez, ils ont des systèmes de batterie critique. Donc par exemple, pour les drones, ils peuvent être un équipementier pour tous les fabricants de drones qui apparaissent sur le marché. Ils ont aussi des batteries critiques pour mettre au fond de la mer Baltique, par exemple. Il y a des projets concrets pour que justement ces drones puissent venir se connecter par induction, plutôt que de devoir aller sortir de l'eau une fois que la batterie est déchargée, d'aller se recharger au fond de la mer directement. Donc il y a des projets assez tangibles. Mais le sujet pour nous le plus tangible en termes de business pour Gabler sont des batteries en fait pour l'industrie pétrolière. En fait, les plateformes pétrolières offshore, depuis pas mal d'années, se sont électrifiées. Donc, pour faire tourner leurs équipements, elles utilisent de l'électricité qui vient souvent de la côte, aussi pour des raisons ESG, d'améliorer l'intensité carbone en fait de la production. Et en fait, ils ont eu un projet pour Chevron en Australie, où ils vont en fait, ils ont installé une batterie au fond de la mer d'un mégawatt, et en cas de coupure de courant. La plateforme pourra venir prendre de l'énergie de secours dans cette batterie. Et ça, ça intéresse énormément les autres acteurs du secteur. Bon, on est évidemment sur une batterie qui va rester au fond de l'eau pendant 25 ans qui doit résister évidemment à la pression également. Et donc ça, ça pour nous, c'est l'opportunité en plus de l'activité défense qui nous semble très intéressant.
Voilà. Gabler, donc G-A-B-L-E-R. Autre conviction, toujours du côté de l'Allemagne, Spolcap, hein, là aussi, qui est rentré en bourse. Alors par contre, ils ne sont pas allés du côté de Francfort, ils sont allés du côté de Stockholm. Hein, ils n'ont pas choisi l'Allemagne pour aller ce côté, parce que le marché à Stockholm est peut-être plus profond. Il s'agit de Arenit.
Oui, en fait, cette société s'est inspirée d'un modèle qui existe énormément en fait dans les pays nordiques, en particulier en Suède, et donc ils se sont cotés à la bourse de Stockholm. Et Arenit, donc, c'est une société qui est spécialisée dans le rachat, la préservation et le développement d'entreprises, donc du Mittelstand allemand. Donc ces petites entreprises qui parfois sont vraiment pas forcément d'une taille significative, mais qui sont des leaders mondiaux, puisqu'ils ont un savoir-faire de précision, de niche, qui leur permet d'obtenir des marges souvent supérieures à 20%, des sociétés de très bonne qualité, mais parfois avec seulement quelques dizaines d'employés. Donc en Suède, ce modèle de consolidation, il est extrêmement, extrêmement présent, et donc il est bien compris par les investisseurs suédois. Donc je pense que c'est pour ça que Arenit s'est coté là-bas. Et en Allemagne, il y a un terreau qui est assez fertile, parce que vous avez un vieillissement accéléré, en fait, de la population, et donc aussi des chefs d'entreprise qui ont parfois pas forcément de successeurs naturels en fait, hein, pour racheter leur entreprise. On dit qu'il y a 100 à 150 000 PME à vendre chaque année en Allemagne, pour ces raisons-là entre autres. Donc on parle de petites cibles, probablement trop petites pour le private equity. Donc souvent, Arenit est le seul acteur en discussion pour racheter ces entreprises. Ils leur promettent de préserver l'identité, les salariés de l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt séduisant, en fait, pour les vendeurs. Par contre, ça leur permet évidemment d'avoir de très bonnes conditions d'achat. Et donc, on a pu visiter donc la semaine dernière leur plus grosse participation pour illustrer ce qu'ils font. Donc, on est vraiment dans de la niche. C'est le leader mondial des engrenages spéciaux pour les wagons de voiture. Hein, vous savez, les wagons qu'on voit avec deux étages de voitures. Bon, les voitures électriques sont de plus en plus lourdes. Et donc, les systèmes de levage sont inadaptés, en fait, à mettre une série de véhicules électriques en hauteur. Et donc, on est là sur une société qui fait un carton, parce que toutes les sociétés de fret dans le monde sont en train de s'équiper de ces nouveaux systèmes. Voilà. Et donc, après, ils ont plein d'autres filiales dans la communication, dans l'aviation, dans la défense. Mais c'est un peu toujours des sociétés extrêmement niches. Voilà. Et donc, on a participé aussi à cette IPO. Voilà. La valorisation aussi, là, est très raisonnable. On est 13 fois le PE. Il n'y a pas de dette. Les Suédois, les sociétés suédoises qui ont fait leurs preuves sur ce même modèle en Suède, en général, peuvent traiter à des multiples de 2 à 3 fois supérieurs. Alors, tout reste à faire. Voilà,
Début. Hein, là aussi, c'est coté depuis 3 mois. Hein.
Exactement. Tout reste à faire, mais on a beaucoup aimé aussi les discussions qu'on a eues avec le management, qui semble extrêmement rigoureux et sélectif dans leur approche.
Voilà donc pour Arenit Industries, qui est coté à Stockholm, hein, au Nasdaq à Stockholm. 73 couronnes, hein, faut faire la conversion, mais en tout cas en euros, hein, si on veut avoir un petit peu un ordre d'idée, ça pèse 160 millions de capitalisation boursière. Merci beaucoup Raphaël Moreau de nous avoir accompagnés ce matin, gérant de fonds chez Amiral Gestion, pour nous partager vos convictions et donc ces deux participations dans ces introductions en bourse qui se sont déroulées au mois de mars. Gabler du côté de Francfort et Arenit du côté de Stockholm. 9h16 à l'instant. Jacques Lemoisson vient nous rejoindre. On va parler un petit peu de ce qui se passe du côté des marchés avec l'intelligence artificielle qui continue d'attirer les flux. Encore et toujours avec des records ce matin du côté de la bourse de Séoul. SK Hynix qui est passé devant Samsung. Hein, c'est vrai que rien n'arrête l'intelligence artificielle. Rien. Jacques Lemoisson, vous êtes le fondateur de Gay Capital Management. Le Nikkei a battu un record. Oui. Hein, c'est vrai qu'il y a pas mal d'inquiétudes par rapport au Yen, mais rien n'y fait. Hein, c'est vrai que le Nikkei poursuit sur sa trajectoire. Bon. Quand du côté de Wall Street, bah, c'était encore une séance totalement dingue. Alors, pas vendredi parce que c'était férié, mais jeudi sur le segment des semi-conducteurs. D'ailleurs, il faut suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passe du côté de Micron, hein, qui va publier ses résultats. Ça sera mercredi soir après la clôture. Quand vous regardez ce qui se passe là, comment vous regardez la situation? C'est sain, malsain? On est toujours sur du même tome, hein? C'est
toujours. On a deux mondes. On a le monde que Wall Street s'est inventé autour de la narrative de Trump. Apparemment, les algorithmes aiment bien ce que Trump dit. D'ailleurs, on voit qu'il y a un niveau gouvernance. On pourra en parler, j'espère. Il y a un petit problème aux États-Unis où il y a une confusion entre les flux des family office privés, de l'agenda de Trump, de l'agenda des annonces faites par son anniversaire, par exemple. Et puis en même temps, on a des flux qui sont gigantesques, flux sur les ETF, flux des particuliers. Et il ne faut pas oublier que le 4 juillet est la date importante à court terme pour Trump et que tout, je dis bien tout, va être fait pour qu'il présente le plus beau visage des États-Unis.
Parce que c'est la fête nationale.
Hein. Exactement. Et surtout, le 250e anniversaire, ouais. Ce qui rend encore le moment encore plus historique.
Avec notamment la patrouille de France. En tout cas, il y aura certains avions français qui vont aller... Eh bien, participer à cette fête nationale. Bon, si on regarde les marchés, on a eu la semaine dernière la Fed. Oui. Cette semaine, là, jeudi, on aura l'inflation américaine. Oui, et ça aussi, ça aurait pu faire peur au marché, Kevin Warch. Les anticipations de hausse de taux hein, qui ont été avancées très clairement hein, ces derniers jours. Et même ça, en fait, ça ne fait pas peur au marché actions.
Non, parce que il faut bien comprendre que le marché américain maintenant est hyper politisé. Pourquoi ? Parce que les particuliers ont une masse gigantesque à l'intérieur. Il n'y a que 20% des Américains qui ont le passeport. Il y a une blague sur Internet qui tourne en disant qui sont les plus smart aux États-Unis, sont les touristes. Donc, en fait, on a personne, aucun Américain n'ira les 14 points du MOU, personne. Et Trump, la seule axe qu'il a, c'est le gasoline en dessous de $4 le gallon, le S&P au plus haut. Les Américains vont voir leur 401k au plus haut, ce qui est leur fonds une partie de fonds de pension. Ils vont voir leur application broker en vert. Bah, tout va bien.
Et pourtant, Kevin Warch, on l'a vu la semaine dernière, était assez ambigu.
Oui, mais pour moi, c'est une ambiguïté. On va dire il est institutionnellement digeste. Et en même temps, il est compatible avec la vision que Trump a d'une Fed plutôt accommodante pour le marché des actions. Donc oui, en effet, ce qui a surpris, c'est que Warsh soit un peu moins dovish comme certains pouvaient le penser. Mais pour moi, il n'a pas été très hawkish non plus. Donc cette ambiguïté, elle va être levée lorsqu'il va commencer à dérouler son plan de réorganisation de la communication de la Fed. Donc apparemment, la Fed va arrêter de jouer à la boule de cristal sur l'inflation. Et c'est la stabilité des prix qui est pour lui la préoccupation principale. Pour l'instant, le marché obligataire ne l'a pas sanctionné et qui est pour moi l'une des variables importantes pour savoir si le rallye peut continuer ou pas.
Et puis, un buy the dip permanent. Oui. Avec Main Street, Wall Street, hein, on parle souvent de ces deux mondes depuis Covid.
Tout à fait.
Mais là, quand vous regardez les flux depuis le début de l'année...
C'est insane. Excusez-moi le anglicisme. Ouais. C'est insane. On a 1000 milliards de dollars d'inflows, d'achats sur les ETF. Ça ne s'est jamais vu. Jamais vu. Et derrière, il y a une statistique vraiment très intéressante, je trouve, pour comprendre la nature des flux aux États-Unis. Les particuliers détiennent à peu près 68 000 milliards de dollars d'actions, ou directement, ou via des fonds. C'est deux fois le PIB américain, c'est quatre fois le PIB européen. Et dedans, il y a une statistique intéressante, c'est que le bottom 50%, c'est-à-dire les ménages, les 50% des ménages les moins aisés ont maintenant 1,1% de ce paquet-là. Alors, là, 1,1%, vous pourrez dire que c'est faible. In fine, ça fait 630 milliards de dollars d'actions détenues par les 50% des ménages les moins riches. Ce qui veut dire que le marché, en fait, actions américains, n'est plus le baromètre des riches. Ça devient une composante sociétale. Et Trump, là, parfaitement compris.
Sans compter les Européens qui détiennent les actions américaines, les Asiatiques.
La Banque Centrale Suisse. Hein.
Voilà, aussi. Donc, aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le marché directeur, un petit peu Wall Street, dans le sens où, sur la thématique IA, c'est là où les flux vont. Alors, c'est vrai qu'on a vu des belles poussées hein, du côté de Séoul. Mais par contre...
Et la Chine aussi.
Voilà, la Chine, j'allais y venir. Quand vous regardez le MSCI China, c'est une déception une nouvelle fois là, depuis le début de l'année. Alors certes, on peut regarder les indices larges, on peut regarder les petites valeurs China chinoises. Voilà,
où là, historique.
On a des hausses qui sont 30, 40, 50% hein, sur certains indices depuis le début de l'année.
Exact.
Mais sur les méga caps chinoises, bah, ça ne prend pas.
Alors, ça ne prend pas pour deux raisons. Déjà, un, ce sont de vrais indices diversifiés. Il n'y a pas 5 actions qui font l'indice. Donc évidemment, quand vous avez un actif américain, des indices américains où vous avez 7 actions ou 5 actions qui font tout le flux, évidemment, c'est plus concentré et en même temps, vous avez en Chine vraiment une diversification réelle. Après, derrière, les indices broad en Chine détiennent beaucoup de SOI, c'est-à-dire des sociétés d'État, qui sont un peu moins, on va dire, dans le mood de la high-tech. D'accord. Donc c'est ça aussi qui fait la différence. Maintenant, pour nous encore, c'est la gouvernance américaine devient de plus en plus problématique et la Chine représente une opportunité non négligeable de diversification, surtout dans l'IA et dans la robotique et dans la décarbonisation. Et l'IA, on a eu des stats aujourd'hui sur le coût des modèles. Le coût des modèles chinois, c'est 70 à 80% moins cher que les modèles américains. Je rappelle simplement ce qui s'est passé sur l'électroménager, sur les téléviseurs, sur les téléphones, sur les voitures électriques. Juste ça.
Il y a eu un moment DeepSeek. Hein, on se souvient que c'était il y a un an et demi.
Ouais.
Et là, depuis plusieurs semaines...
Non, mais nous, on a deux valeurs dans notre thématique AI robotique qui prennent 25% ce matin sur justement cette nouvelle que il y a des modèles chinois commencent à baisser les coûts des tokens. Et qu'on l'a vu aussi, de plus en plus de sociétés américaines même commencent à utiliser des modèles chinois en raison des coûts. Donc, les Américains sont très forts et il est compliqué d'être short en raison de tous les flux qu'on a indiqués et de la narrative américaine qui va porter encore au moins jusqu'au 4 juillet, voire même Trump pourrait éventuellement, et les Républicains gagner les élections s'il arrive à maintenir... Il a fait le hat-trick, hein. Il a un pétrole en dessous de $4, il a des indices actions au plus haut, il a fait une guerre propre. Il n'y a pas d'Américains GIs qui rentrent en nombre dans des sacs en plastique noir. Derrière, il estime qu'il contrôle la zone. In fine, c'est faux, parce qu'évidemment, les Iraniens ont, sur les 14 points, il y en a 11 qui sont favorables aux Iraniens. Mais la rhétorique marche. Et derrière, tant que le peuple américain ne lira pas les MOU, ne sait même pas où mettre l'Iran sur la carte, ne sait pas ce que la Perse est derrière, voit un président américain qui vend sa politique. Il y a assez peu de raisons tant que l'obligataire ne corrige pas.
Et pour vous, ça doit être un électrochoc. Le fait de se dire, on n'arrête pas de critiquer la Chine sur sa gouvernance.
Si, mais maintenant,
Vous regardez les États-Unis, au final, la conclusion, c'est de se dire, pourquoi pas aller en Chine, finalement? Les défauts qu'on mettait du côté de la Chine, on peut les retrouver également du côté des États-Unis.
Ah bah là, c'est carrément. Je ne sais pas ce que fait la SEC ou la CFTC, hein, mais même sur l'urée, on a vu des flux particulièrement étranges d'achat avant 5 minutes avant des nouvelles. Donc, il y a une manipulation de marché, une confusion des agendas politiques privés assez colossales. La gouvernance américaine est en train quand même de tomber en lambeaux, alors que la gouvernance chinoise tient plutôt la route en ce moment.
On aura l'occasion de reparler de tout ça et surtout de la tech chinoise avec vous, Jacques.
Avec plaisir.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes fondateur de Gay Capital Management. Le CAC 40 est parfaitement stable. 8422 points, c'est-à-dire quasiment au point près son niveau de clôture de vendredi. On voit ça tout de suite avec Alexandre Baradez. Chef analyste d'IG. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
En effet, le CAC 40 est parfaitement stable. Eurostock 50 prend 0,3%. Bon, c'est vrai, on en parlait il y a un instant avec Jacques Lemoisson. Le marché tient extrêmement bien. Encore ce matin, le baril de pétrole est à $79. C'est-à-dire qu'il réagit assez peu hein, aux événements du week-end, que ce soit sur le blocage du détroit d'Hormuz samedi, mais aussi sur l'issue incertaine des discussions qui ont pu se tenir cette nuit.
Oui, effectivement, on voit que la fin de semaine dernière s'est rythmée un petit peu par la géopolitique à nouveau. Et bien ce week-end, en l'espace d'un week-end, regardez les événements. L'Iran dit on referme le détroit d'Hormuz. Ce matin, on voit que finalement les délégations américaines avec le médiateur pakistanais notamment sont parvenues à une situation pour éviter à nouveau ce blocage. Donc c'est la géopolitique en 2026. Hein, il se passe quelque chose 12 heures avant et puis 12 heures après, le scénario a changé. Donc le marché s'adapte à ça. Après ça, qu'on avait fait la semaine dernière, je dirais que la géopolitique va quand même compter cette semaine, évidemment. Ce qu'on va surtout voir, c'est comment les indices d'activité réagissent en zone euro. On aura demain matin la publication des indices PMI dans les services, dans le secteur manufacturier. Et donc, on va commencer à voir si les effets de l'annonce de cette fin des hostilités, en tout cas, même s'il n'y a pas encore évidemment d'accord, on discute sur un accord, mais qui n'est pas encore là, mais est-ce que une partie de cette détente qui aurait été observée sur les dernières semaines, est-ce qu'elle se retranscrit au niveau du moral des entreprises dans différents secteurs en Europe? Donc ça, ce sera l'enjeu de demain. Après, c'est vrai que la fin de semaine dernière, si on se souvient bien, on était quand même resté sur une note assez vigilante à la Fed version Kevin Warsh, donc le nouveau président de la Fed, qui avait quand même surpris par rapport à cette absence de guidance, en fait, hein, de projection. Et on avait vu que les marchés obligataires avaient quand même réagi assez. Le dollar s'était renforcé, les taux s'étaient un petit peu renforcés également côté États-Unis. Et puis les marchés actions qui avaient d'abord baissé ont pas mal rebondi ensuite. Mais on voit qu'il y a quand même une thématique obligataire et dollar aux États-Unis avec une inflation toujours persistante. Et cette semaine justement, on aura aux États-Unis la principale mesure d'inflation pour la Fed, à savoir l'inflation PCE. Donc je dirais que c'est un début de semaine voilà où on regarde un petit peu tout, géopolitique, les conséquences de cette réunion de la Fed, qui était malgré tout un peu plus faucon que certains pouvaient l'attendre. Et effectivement, on voit que le marché action est, lui, toujours très résilient par rapport à ça, mais sur le marché obligataire, sur le marché d'échange, même sur les métaux également, on voit qu'il y a quand même un réalignement par rapport à ce risque de voir la Fed au moins maintenir les taux longtemps sur les niveaux actuels, voire les relever. C'est ce que le marché prise d'ici la fin de l'année, en tout cas.
Merci beaucoup, Alexandre Baradez, de nous accompagner ce matin. Et donc, cette inflation américaine qui sera à suivre de près, ça sera jeudi à 14h30 et mercredi soir, donc la publication des résultats de Micron après la clôture de Wall Street. Dans un instant, vous retrouvez les experts avec Raphaël Legendre. La séance a su, bien sûr, Tout pour investir avec Antoine Larigauderi. Et puis, bien sûr, cet après-midi, l'ouverture de Wall Street avec Guillaume Sommerer dans BFM Bourse à partir de 15h30. Très bonne journée.
Good Morning Market sur BFM Business.